Léa Salamé, vos invités ce matin viennent de publier une enquête sur la banlieue, la part du ghetto, la vérité sur les banlieues, c'est chez Fayard.
Bonjour Manon Kerroul-Brunel et Malek Dehoun, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous ce matin. Manon, vous êtes grand reporter, vous avez été en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen. Pourquoi délaisser ces terrains de guerre pour aller en banlieue ?
Bah finalement, le grand reportage, il peut aussi commencer à 10 minutes de chez soi, puisque moi j'habitais effectivement pas loin de la banlieue sur laquelle on s'est penché. Et c'était l'idée de pouvoir enfin prendre son temps par rapport au terrain de guerre où on va pendant 10 jours, on effleure à peine et on rentre. Là, on avait du temps, on voulait s'immerger, on voulait vraiment pouvoir accéder à des tranches de vie, raconter un quotidien. Et du coup, c'est de France en marge.
Malek, c'est vous qui lui ouvrait la porte de la banlieue. Manon dit que vous avez été son sésame et sa caution. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Elle n'aurait pas pu enquêter sans avoir un guide.
Bah, je pense qu'il fallait quelqu'un de l'intérieur. Il fallait quelqu'un de l'intérieur, quoi, de ma rue, quoi. Et c'est peut-être plus facile pour un mec, pour que les gens ils se livrent plus facilement avec quelqu'un comme moi, comme ils me connaissent. Et... ouais, j'ai été son guide, hein, quelque sorte.
Ouais. Manon, vous dites, je suis arrivée dans un bain de testostérone où il ne faut pas montrer que vous êtes journaliste. On n'aime pas parler aux journalistes. En revanche, être une femme est un avantage.
Oui, passer effectivement cette espèce de trouble qu'a pu semer une présence féminine dans des lieux qui sont habituellement trustés par les hommes, les cafés, la chicha, le PMU, effectivement les femmes ne traînent pas là-bas. Mais assez vite finalement j'étais plus une femme ni une journaliste, j'étais l'amie de Malek. Effectivement c'est pour ça que je disais que c'était ma caution et mon sésame. Les premières semaines ont été compliquées, je pouvais même pas sortir un stylo et un carnet, c'était suspect. Il a fallu qu'on s'habitue à ma tête et progressivement finalement... Moi, j'ai eu l'impression que j'avais gagné mon pari le jour où, quand je suis arrivée, les gens ont continué à parler comme si j'étais pas là. Parce qu'au début, vraiment, les conversations cessaient. Et puis, je me sentais une intrue. Et puis, un jour, on m'a dit « Assis-toi là ». Et j'ai eu l'impression que j'étais acceptée quand j'ai pu prendre place dans ce cercle viril qui était la clientèle de la chicha, quoi.
D'ailleurs, il s'énerve quand vous lui dites « Mais pourquoi il n'y a pas de femmes ?»
Il s'énerve souvent.
Il s'énerve souvent, Malek. Pourquoi vous vous énervez quand elle vous dit « Mais pourquoi il n'y a pas de femmes qui se baladent ?»
Parce que c'est quand même la rue, c'est quand même assez macho, c'est un endroit d'hommes, ça joue aux cartes, ça joue aux jeux, ouais, on peut dire ça aussi. Et les endroits, c'est pas très propre non plus, les cafés, c'est pas les cafés parisiens, tu rentres dans les toilettes, c'est une poubelle.
Donc il faut pas de femmes.
Donc non, les femmes préfèrent aller sur Paris, les femmes préfèrent aller dans des meilleurs endroits, je les comprends. Ouais. Mais nous, c'est vraiment un endroit masculin.
Alors, ce qui marque le plus dans votre livre, c'est ce constat. 20 ans après, la banlieue ne ressemble plus du tout à celle filmée par Mathieu Kassovitz dans La Haine, où les jeunes voulaient mettre le feu et tout faire péter. Aujourd'hui, écrivez-vous, les jeunes n'ont plus d'illusions ni d'idéaux, ils ne brûlent plus de voitures, ils font de l'argent, ils ne rêvent pas d'une bitch des magazines, comme le chantait Joystar, mais d'une bonne à marier. C'est en ça qu'elle a changé la banlieue ?
Bah, effectivement, je crois qu'entre la génération de Malek et les jeunes de 20 ans aujourd'hui, il y a ce grand fossé, effectivement, entre la rébellion qui pouvait les porter, notamment par rapport à l'honneur des parents qui étaient arrivés en France pour gagner de l'argent et qui voulaient s'intégrer à tout prix. Et ces gamins, donc la génération de Malek, qui n'ont pas trouvé leur place et qui ont quand même essayé de la prendre. Et aujourd'hui, les gens de 20 ans, ils ne cherchent plus à la prendre. Ils s'installent là où il y a de la place.
Ils veulent faire de l'argent.
Ouais.
Pour retourner
au bled.
Ouais. Ça, c'est assez étonnant.
C'est le chemin inverse. Alors, moi, ce que je savais pas, c'est que déjà, globalement, tous les habitants de la cité, quand ils meurent, ne se font pas enterrer en France. Le corps est rapatrié. Et maintenant, l'idée, c'est de faire ce chemin-là aussi, tant qu'on est encore en vie, voilà, exactement. Et donc, de pouvoir se construire une belle maison, ouvrir un commerce. L'idée, c'est de dire que là-bas, tout reste à faire par rapport à la France où ils ont toujours l'impression d'avoir un train de retard. Là, l'idée, ce serait d'aller faire fructifier les études qu'ils ont pu faire ici ou l'argent, et en plus de vivre au soleil, quoi.
Malek, votre père, qui est arrivé en France dans les années 70, a du mal avec ces changements, je le cite. À l'époque, on avait des boulangeries traditionnelles, des bijouteries, des boucheries chevalines, des filles en mini-jupe. Moi, mon identité, c'était pas français ou algérien, c'était ouvrier. Aujourd'hui, on file le RSA à n'importe qui et on accueille toute la misère du monde. Et son pote Abdel le coupe et lui dit « Vous, les anciens, vous êtes encore plus facho qu'un bon français qui vote FN. »
Ouais, parce que mon père, en gros, il est triste qu'il n'y a plus de vivre ensemble, quoi. Ça, tout a changé, là. Ça a changé. On est contre nous, c'est de l'entre-soi, quoi. Il est triste, quoi. Lui, pour lui, la France, c'était multiculturel, on était tous ensemble, tous unis, plusieurs races, plusieurs religions. Et ça l'attriste, quoi.
Et ça vous attriste aussi, c'est la
fin. Franchement, ça me rend triste, franchement, ça. Ouais, le vivre ensemble, ça me rend triste, je vous dis la vérité, madame. On est contre nous, c'est triste.
C'est très beau ce que vous dites à la fin, c'est sombre, mais c'est beau. clôturer le livre en disant « J'ai ressenti une nostalgie en revenant dans ma cité. Je repensais à nous quand on était tous là, français, portugais, antillais, africains, musulmans, juifs, autour du terrain de foot. Aujourd'hui, la mixité a disparu au profit d'un repli communautaire. Ma banlieue a perdu ses couleurs, sa richesse et sa joie de vivre ensemble. »
C'est exact. C'est tout ce que... C'est... Franchement, c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a donné l'idée d'écrire le livre aussi avec Manon. Avec Manon, bah, c'est qu'il y a un gros changement, c'est plus pareil, on n'est plus pareil. Même nous, on se retrouve plus avec ma banlieue, je ne la reconnais plus. Mmh. Et ça m'attriste, quoi.
Et Manon, le grand changement, c'est le poids grandissant de la religion que vous écrivez, qui touche surtout les jeunes, avec des situations paradoxales, comme des jeunes qui partent en petit pèlerinage à la Mecque, écrivez-vous, quelques mois après des vacances en Thaïlande, si sex and son.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. C'est ce qu'on raconte. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ces tranches de vie de banlieue, c'est l'idée que la vie en banlieue force à un équilibre et à un assemblage un peu compliqué. Il y a l'envie de vivre sa vie, de s'amuser, et puis il y a le poids du regard des autres, de la communauté, et de s'astreindre à ressembler à ce qu'on a l'impression qu'il faudrait être. Et donc, ça donne lieu à des grands écarts, effectivement, assez improbables. C'est ces gamins qui payent 4000 euros pour faire la Omra, le petit pèlerinage qui est donc hors saison, donc un peu moins cher, et en même temps qui deal de la coke, mais avec des gants, parce que quand même,
on touche
c'est
pas
haram,
la coke avec la main, c'est haram, ouais.
Des gamines qui se prostituent et dans la même tour d'autres qui sont converties au salafisme. Donc effectivement, c'est se concentrer en fait de destins très différents, mais qui finalement, derrière chaque paradoxe, c'est ce qu'on écrit, est assez cohérent. L'idée, c'est de s'arracher sa part du ghetto. C'est le titre du livre. Il faut vivre.
Ouais. Et pour vivre, alors la prostitution, page très intéressante, le développement de la prostitution, vous racontez, je cite, ces jeunes beurrettes qui gravitent dans les boîtes de nuit orientales, espérant se faire bientôt entretenir par un footballeur ou un riche saoudien, des wannabe Zaya, la pretty woman des cités. Et vous, Malek, vous dites, ça me choque.
Bah, ça m'attriste un peu quand même.
Ce qui se choque beaucoup aussi, c'est l'idée que des hommes se soient mis sur le créneau et qu'au lieu de dealer du shit, ils prostituent des filles.
Voilà, c'était... C'est qu'il y en a, ouais, déjà, faire de l'argent sur ça, je trouve ça sale et horrible. Et que des filles qui ont été à l'école française, qui ont tout pour réussir, bah, ils finissent par chercher de l'argent comme ça m'attriste. Il n'y a pas de misère en France. Si tu travailles, tu peux t'en sortir, tu peux faire une formation, on t'aide. Ça m'attriste, quoi. Ça m'attriste que donner son corps pour du pognon, ça m'attriste.
Voilà, le livre s'appelle « La part du ghetto, la vérité sur les banlieues ». Et franchement, on l'entend ce matin quand on vous écoute, ça sort des sentiers battus, des portes ouvertes qu'on entend sur les banlieues, ça sort des poncifs. Il y a certains poncifs que vous confirmez d'ailleurs. Voilà, c'est différent. C'est pas le nouveau livre, l'éternel livre sur les banlieues. Il y a quelque chose de différent, un souffle différent dans ce livre-là. Moi, j'ai beaucoup aimé « La part du ghetto » chez Fayard. Merci à tous les deux.
Merci à tous les deux. Vous me l'offrez, Léa ?
Non.
S'il vous plaît, soyez généreuse pour une fois.
Il faut payer.
J'irai l'acheter. Merci à tous les deux.